les sports, ça donne des courbatures. J'ai rencontré la poésie, elle avait un air bien prétentieux. Elle prétendait qu'avec les mots on pouvait traverser les cieux. Je lui ai dit je t'ai déjà croisé et franchement tu vaux pas le coup. On m'a parlé de toi à l'école et t'avais l'air vraiment relou. Mais la poésie a insisté et m'a rattrapé sous d'autres formes. J'ai compris qu'elle était cool et qu'on pouvait braver ses normes. Je lui ai demandé tu penses qu'on peut vivre ensemble, je crois que je suis accro. Elle m'a dit t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse et franchement elle m'a saoulé. On a discuté vite fait mais rapidement je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tension. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation. À un moment sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui ai dit tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. Elle m'a dit écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton si tu veux pas te manger des baffes. Moi je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort et moi, je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa mais que quand même il se la raconte. Il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines et ce soir il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir, j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie, la fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié, et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus y a aucun doute. Et tous les jours, je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
Commencer cette émission sur la poésie, ce regard singulier sur la vie avec Grand Corps Malade, quoi de mieux? Et nous reviendrons avec Grand Corps Malade à la fin de cette émission. Mais la poésie, de quoi s'agit-il? Paul Valéry faisait ce commentaire: la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Et puis il y a cette autre citation de Baudelaire que je vais aussi inverser. Baudelaire dit « Tout homme bien portant peut se passer de manger pendant 2 jours, de poésie jamais ». Alors je vais inverser, et peut-être que dans la période contemporaine, on pourrait dire « Tout homme mal portant ne peut se passer de manger 2 jours, mais de poésie toujours ». Voilà, cela dit, encore une fois, de quoi s'agit-il ? Nous pourrions vous faire écouter une suite de poètes, c'est relativement facile. Essayons de partir à l'exploration de la poésie, ce regard singulier sur la vie. Cela dit, que dire? Où trouver des informations? Alors, je vous propose tout d'abord de recourir à Rainer Maria Rilke, avec son livre absolument extraordinaire, qui, j'allais dire, s'appelle « Lettre à un jeune poète ». Rainer est né le 4 décembre 1875 à Prague et il nous a quittés le 29 décembre 1926. En fait, René était le nom de baptême de Rainer et c'est Lou Andrea Salomé qui le rebaptisera Rainer en 1897. Qu'écrit Rainer? Eh bien, allons voir ce petit livre que je vous conseille. C'est un livre de poche folio plus classique. Il nous donne des matériaux pour comprendre dans ces 10 lettres qu'il écrit à Franck Xaver Capus, qui est absolument extraordinaire. Nous allons commencer au hasard par un passage que j'ai trouvé tout à fait pertinent. Notre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous ne devriez jamais plus faire, écrit-il à cet homme. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un seul moyen. Plongez en vous-même. Recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Examinez si cette raison étend ses racines jusqu'aux plus extrêmes profondeurs de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si vous seriez condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire. Et avant toute chose, demandez-vous, à l'heure la plus tranquille de votre nuit, est-il nécessaire que j'écrive ? Et si cette réponse est positive, eh bien, avancez, écrivez, en vous rapprochant de la nature. Voilà le premier commentaire que Heiner fait à ce garçon. Le second passage le continue. « Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous plutôt, dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en comprendre les richesses. » Pour celui qui crée, il n'y a en effet ni pauvreté, ni lieu indigent, ni indifférent. Et quand bien même vous seriez dans une prison dont les murs ne laisseraient rien percevoir à vos sens des bruits du monde, n'auriez-vous alors toujours à votre disposition que votre enfance, si riche, si royale et si précieuse, ce trésor de souvenirs, portez-là votre attention, cherchez à veiller les sensations englouties dans ce lointain passé, votre personnalité en sera confortée et votre solitude en sera élargie pour devenir cette demeure à peine visible, loin de laquelle passera le vacarme des autres. Et puis, ce dernier commentaire qu'il fait, si j'avais à dire ce que j'ai appris dans la vie, je répondrais ceci. Il n'y a que deux noms que je pourrais avancer. Jacobsen, le grand poète, que nous avons, je crois, tous beaucoup oublié, moi le premier, et Auguste Rodin, le sculpteur qui n'a d'égal à personne parmi tous les artistes aujourd'hui vivants. Rappelons que en 1903, Rainer a été le secrétaire particulier de Rodin. Voilà une première esquisse, une première information sur ce que peut être la poésie. Nous allons en retrouver d'autres tout à l'heure. Mais je voudrais vous faire une surprise et je voudrais que nous allions frapper à la porte de Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, c'est un personnage qui a marqué la reprise de mes études. Et Gaston Bachelard reste encore enseigné, Dieu merci, dans le bac philo et dans certaines formations, pas assez à mon avis. Et dans une lettre qu'il écrit tardivement, il écrit ceci « Toute mon existence a été placée sous le signe du tardif ». Effectivement, enfant des campagnes, né dans un pays de ruisseaux et de rivières, modeste employé des postes à 20 ans, il a déjà 35 ans quand il entame une carrière de professeur de sciences au collège de Bar-sur-Aube. 38 ans quand il obtient l'agrégation de philosophie. C'était un peu plus facile peut-être à l'époque, il y avait moins de candidats. 43 ans son doctorat et 56 sa chaire à la Sorbonne. Et écoutez Bachelard, grâce aux archives de l'Institut National Audiovisuel, Bachelard nous parle de poésie.
Dans les 5 causeries précédentes sur la poésie des éléments matériels, j'ai examiné successivement les thèmes poétiques qui peuvent être assemblés autour des images de l'eau, de l'air et du feu. Et la semaine dernière, j'ai commencé l'étude de l'élément terrestre. Tandis que les 3 premiers éléments, eau, air et feu, sont directement dynamiques, et résume les forces simples qui, pour l'imagination, animent tout l'univers, l'élément terrestre peut sembler l'élément passif par excellence, l'élément inerte. Cependant, dès que l'imagination matérielle est éveillée, dès que l'imagination aime à dépasser le jeu des formes et des couleurs pour rêver à l'intimité profonde des choses, à l'étonnante richesse des substances du monde matériel, un dynamisme nouveau anime le corps et l'esprit. Et voici que soudain, la main elle-même, la main qui pétrit et qui taille, la main qui polie et qui écrase, s'enchante de sa force et de son travail. Nous entrons dans le règne des images engagées. En examinant dans leurs détails et dans leur diversité ces images engagées, j'ai cru pouvoir parler des rêveries de la volonté. Dans le travail de la matière, il y a, me semble-t-il, une étroite union des deux facultés qu'on aime volontiers, qu'on donne volontiers comme contraire, l'imagination et la volonté. L'imagination matérielle fait vraiment une synthèse de l'image et de la force. Elle n'est plus une simple faculté d'évasion. Elle nous apporte des images et des progrès et des projets qui séduisent vraiment la volonté. Le grand romantique Jean-Paul Richter tenait le toucher pour une camisole de force qui nous enfermait en nous-mêmes. L'imagination des profondeurs de la substance matérielle nous libère de ce toucher fermé, de ce toucher passif. Elle déclenche par ses images la poésie du toucher. Soudain, la main à ses poèmes. Les images dynamiques de la main, les poèmes de la main, s'exaltent dans la résistance de la matière. Par elle, une imagination de transformation encourage la volonté. Ainsi, l'être qui accepte les rêveries de la volonté est profondément dynamisé. Un type de poésie naît précisément du travail des différents types de résistance de l'élément terrestre. La matière travaillée nous renvoie notre énergie. Elle est en quelque sorte le miroir énergétique par lequel nous prenons conscience de notre force, de notre adresse, de notre patience, de notre puissance de transformation. En transformant la matière, nous nous transformons nous-mêmes. Novalis a écrit cette étonnante formule qu'on ne peut comprendre que dans le règne de l'imagination matérielle. Je cite Novalis. « Dans chaque contact s'engendre une substance. » Il semble que le travail de la main, que dans le travail de la main, toute matière devienne humaine. Ainsi, avec les images engagées dans la transformation de la matière, nous sommes à la racine du pouvoir humain de création, à la racine du pouvoir étymologiquement poétique. Les poésies des forces de la main sont d'une prodigieuse variété. Elles correspondent à un complexe de la résistance et du défi, toujours difficile à analyser. À peine un si grand domaine peut-il être encadré dans la dialectique du dur et du mou. Dans le cadre de cette dialectique, à partir de laquelle le psychologue pourrait trouver des tests caractériels nombreux et précis, on peut fonder une doctrine des beaux-arts, car soit directement, soit par voie de métaphore, les images dynamiques de la matière ont des actions directrices. Il est sûr que sans un intérêt quasi natif pour le modelage, l'art si ancien du potier est inimaginable. De même, la sculpture, la taille des pierres, la gravure, la ferronnerie, tous ces arts, soi-disant mineurs, sont en besoin de la saine excitation des matières dures. La main vigoureuse aime imposer ses images sur une matière rebelle. Dans ces joies de la main, ces joies directement créatrices, qu'il faudrait étudier en détail dans une poétique généralisée, elles sont si grandes, si vraies, si naturelles, qu'elles sont encore sensibles dans leur transposition littéraire.
Dès lors, voilà, un extrait, nous devons quitter Gaston Bachelard. Ceci relève d'un document tout à fait inédit de causeries qu'il a réalisées pour l'Université radiophonique internationale à la fin 1952. Il faudrait pouvoir tout écouter. Bachelard est un référent incontournable, y compris en poésie, et pas seulement en science ou pour tout simplement tous les thèmes du quotidien. Sur un fond du boléro de Ravel, je voudrais maintenant vous donner quelques citations pour terminer cette première partie de l'émission. La poésie est une aventure vers l'absolu. Pedro Salinas. La poésie, cette hésitation prolongée entre le son et le sens. Paul Valéry. Poète est celui qui rompt avec l'accoutumance. Saint John Perse. Créer ce que jamais nous ne verrons, c'est cela la poésie. Gerardo Diego. La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. Shakespeare. Le poète est semblable au prince des nuées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Les fleurs du mal. Dans toute poésie, il y a une lutte secrète entre l'infini du sentiment et le fini de la langue, dans laquelle cet infini se referme sans se limiter. Baudelaire. La poésie, c'est tout ce qu'il y a d'intime en tout. Victor Hugo. La poésie, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. Jacques Prévert. Les hommes se servent des mots, le poète les sert. Octavio Paz. Un poète doit laisser des traces de son passage et non des preuves. Seules les traces vont rêver. René Char. La liberté commence là où l'ignorance finit. Victor Hugo. Toujours de Victor Hugo. Ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme. La chair est cendre, l'âme est flamme. À tout à l'heure pour la suite de cette émission sur la poésie. Nous allons explorer certains poètes du monde. Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Continuons, chers auditeurs, je voudrais seulement mentionner pour commencer, car cette émission est très chargée, par rendre hommage aux auteurs du Festival international de poésie à Caen-la-Source, qui est un petit village de 1800 habitants à côté de Brignoles. Les 11 et 12 avril, ils ont organisé un magnifique festival international sur le mi-temps de la vie. Je voudrais leur rendre hommage, j'ai assisté, en particulier le dimanche, à 11h sur la place, à des poètes qui lisaient des poésies. Et je voudrais aussi au passage rendre hommage à Christophe Forgeau, grand poète dans le Var. Allez voir son site et vous ne serez pas déçus. Continuons cette émission et nous accueillons une adolescente. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Merci de participer à cette émission sur la poésie. Alors, vous avez découvert un auteur anglais, vous avez été impressionné par son texte. Puis-je, première question, vous dire quel est cet auteur ?
Alors, cet auteur, c'est le poète Ted Hughes, donc un poète britannique que peut-être vous connaissez. Et le texte qui m'a beaucoup plu. C'est l'extrait d'une lettre qu'il a écrite à son fils Nicolas plusieurs années après la mort de sa mère. Et dans cette lettre, donc, il lui demande, il lui conseille de faire attention en quelque sorte à l'enfant qu'il a en lui, son enfant intérieur, et de profiter de la vie pleinement. Voilà.
Alors, vous nous donnez un extrait de ce texte?
Oui.
Que vous avez traduit vous-même, je crois.
Oui, j'avais pas trouvé de version française.
En français.
Voilà. Donc j'espère lui faire honneur. De plusieurs façons, manifestement, tu es encore puéril. Comment ne pourrais-tu ne pas l'être, toi seul, parmi les hommes? C'est une chose dont les gens ne parlent pas, parce que c'est une chose dont la plupart ne sont pas conscients. Et ils n'en sont conscients alors que seulement comme une crise générale d'un sens d'inadéquation ou de dépendance impuissante, ou d'une solitude futile, ou un sens de ne pas avoir un ego assez fort pour rencontrer et maîtriser ces orages intérieurs qui proviennent d'un angle inattendu. Mais peu de gens réalisent que c'est en fait la souffrance de l'enfant à l'intérieur d'eux. Tout le monde essaye de protéger ce vulnérable enfant de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans à l'intérieur et d'acquérir des compétences et des aptitudes pour gérer ces situations qui menacent de le submerger. Alors tout le monde développe une armure entière d'un soi secondaire, le soi artificiellement construit étant celui qui s'occupe du monde extérieur et la cohue des circonstances. Et quand nous rencontrons des gens, c'est seulement ceux-là que nous rencontrons habituellement. Et si c'est seulement cette partie d'eux que l'on rencontre, nous sommes susceptibles d'avoir des moments difficiles et de finir par ne plus avoir aucun contact. C'est une chose intangible. Mais eux aussi ressentent quand c'est à ceux-là que l'on essaye de faire appel et ils répondent avec une impulsion de vraie vie. On a un petit éclat de la personne essentielle qui est l'enfant. Habituellement, cet enfant est dans un petit être misérablement isolé. Il a été protégé par l'armure efficace et il n'a jamais participé à la vie. Il n'a jamais été exposé à la vie et à s'occuper des affaires de la personne. Il ne lui a jamais été donné la responsabilité pour en avoir fait les frais. Il n'a jamais réellement, vraiment vécu. C'est comme cela en presque tout le monde. Et cette petite créature est assise là, derrière l'armure, scrutant à travers les fentes. Et en lui-même, il est encore sans défense, incapable, inexpérimenté. Chaque personne est vulnérable à une défaite inattendue dans ce plus intime, soit émotionnel. À chaque moment, derrière l'apparente adulte extérieur le plus efficace, le monde entier de l'enfance de la personne est en train d'être soigneusement tenu comme un verre d'eau bombé au-dessus du bord. Et en effet, cet enfant est l'unique vraie chose en eux. C'est leur humanité, leur vraie individualité, celle qui ne peut comprendre pourquoi elle est née, mais elle sait qu'elle devra mourir, et peu importe l'endroit, bondé ou pas, seule. C'est le porteur de toutes les qualités vivantes. C'est le centre de toute la magie et de la révélation possible. Mais vu que ce moi artificiel secondaire a pris le contrôle de la vie et a relégué le vrai, vulnérable, hypersensible moi souffrant dans sa nurserie, il a manqué d'entraînement, ce prisonnier intérieur. Et ainsi, où qu'il aille, la vie le prend par surprise. Et soudainement, le moi artificiel des adaptations s'avère inadéquat. Et il ne parvient pas à repousser l'invasion d'expériences crues. Ce moi intérieur est alors envoyé en première ligne, non préparé, avec toutes ces terreurs d'enfance autour de ses oreilles. Et pourtant, c'est le moment qu'il veut. C'est là qu'il s'anime. Même si c'est seulement pour être accablé, déconcerté et blessé. Et c'est là qu'il mobilise ses propres ressources, sans aide artificielle, ramassée dehors, mais de vraies ressources intérieures pour l'aider à supporter et à faire valoir, à apprécier. Et c'est le paradoxe. La seule fois où nombre d'entre nous se sentent en vie, c'est quand quelque chose accable leur ordinaire, soigneusement protégé derrière l'armure, et l'enfant nu est jeté dans le monde. Le seul calibrage qui compte, c'est combien d'attention est-ce que les gens investissent? Combien est-ce qu'ils ignorent leur peur d'être blessés ou d'être pris par défaut ou humiliés? Et la seule chose que les gens regrettent, c'est qu'ils n'aient pas vécu audacieusement, qu'ils n'aient pas investi assez d'attention dans certaines choses, qu'ils n'aient pas assez aimé. Tout le reste ne compte pas vraiment. C'était un proverbe sur les figures nobles des vieux poèmes irlandais. Il donnerait ce faucon à n'importe quel homme qui le demanderait. Pourtant, il aimait son faucon, plus que n'importe quel homme aujourd'hui aime sa femme de demain. Il pleurerait pour un chien avec plus de chagrin que n'importe quel homme aujourd'hui pleurerait pour son père. Et c'est comme cela que l'on mesure notre vrai respect pour les gens. Par le degré de sentiments qu'ils peuvent manifester, la tension de vie qu'ils peuvent porter et tolérer et apporter. Et enfin, profiter. Et comme Bouddha le disait, vis comme une rivière puissante. Et encore, comme les Grecs disaient, vis comme si tous tes ancêtres vivaient encore une fois à travers toi.
Alors ce texte vous a beaucoup marqué apparemment, beaucoup impressionné. Pourquoi ?
Eh bien, je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai découvert relativement par hasard. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je lisais ce texte, qui n'est pas vraiment un poème, mais qui est très poétique, ça m'a beaucoup... Enfin, je me suis peut-être un petit peu reconnue. Et en fait, ça m'a rappelé une pensée qui était que nous sommes tous la somme de nos manques et de nos souffrances d'enfants, et qu'on ne les oublie jamais, qu'elles ne nous laissent jamais, que l'on vit notre vie peut-être en essayant d'être assez indépendant de ces peurs et de ces manques, mais ils sont toujours là et ils nous aident à nous construire chaque jour.
Merci Anna, vous avez choisi une musique, alors on va l'écouter et les gens, nos auditeurs vont la reconnaître, j'espère, car c'est une très belle musique. Je les mets sur la piste, c'est Mémoire, ils vont trouver la suite. Écoutons un peu cette musique. Alors, dans la perspective que Anna vient de nous indiquer, rappelons que Fernando Pessoa, un Portugais, dit, et c'est très important, qu'il y a en nous deux êtres. Le premier, le vrai, selon lui, c'est celui de nos songes, de nos rêves, qui naît dans notre enfance et qui continue toute notre vie. Le second est celui des apparences, des discours, de nos actes, de nos gestes. Alors, en résonance à nouveau à ce texte de Pessoa, allons voir ce que nous dit Arthur Rimbaud dans sa fameuse lettre du voyant. Un tout petit extrait. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance entière. Il cherche son âme, il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. En fait, cela est redoutable. Je dis qu'il faut être voyant. Se faire voyant. Partant de ces quelques pistes, nous allons essayer de continuer dans le monde en prenant quelques points de repère. Et dans un premier temps, je propose que nous prenions d'abord comme repère la France, et peut-être Victor Hugo, non seulement parce qu'il a écrit bien des romans, que c'est un personnage absolument extraordinaire, mais parce qu'il a écrit des poésies, et en particulier celle-ci. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers en fleurs. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Victor Hugo. Continuons notre exploration. Il y aurait bien des pays, quasiment tous les pays du monde, où il faudrait s'arrêter. Nous allons prendre un passage de Tagore. Ce grand romancier, ce grand poète indien qui a vécu de 1661 à 1941 Et en particulier, il a fait un très beau livre qui lui a permis d'obtenir le prix Nobel, Le France lyrique. Et pour la petite histoire, c'est André Gide, qui a vécu à Cabris, proche de Grasse, qui l'a traduit de l'anglais en 1963. Je ne prends qu'un extrait, c'est une toute autre perspective. Écoutez. Vie de ma vie, toujours j'essaierai de garder mon cœur pur, sachant que sur chacun de mes membres remonte ton vivant touché. Toujours j'essaierai de garder de toute fausseté rogue pensée, sachant que tu es cette vérité qui éveille la lumière de la raison de mon esprit. Et ça sera mon effort de te révéler dans mes actes, sachant que c'est ton pouvoir qui me donne force pour agir. De là, nous allons peut-être aller en Amérique latine. Alors, en dehors d'un grand poète dont nous allons parler à l'instant, vous avez découvert, Anna, un petit poète dont c'est une femme, je crois, qui a écrit ce poète.
Tu ne saurais parler la langue des oiseaux, la langue du vent, la langue de la mer. Il te manque, n'est-ce pas, l'esprit de la langue. Ce que dit la vague, l'air, le merle, n'admet pas de discussion. Et toi, tu tords et retors les mots.
Voilà, alors nous allons passer maintenant à un autre poète romancier de l'Amérique latine et nous allons écouter deux textes de lui. Le second, qui a déjà été passé deux ou trois fois dans cette émission, mais qui est tellement beau que nos auditeurs et nos auditrices le demandent. Et puis, ce petit poème de Pablo Neruda, qu'il a écrit juste avant de mourir. Est-ce que vous savez, chers auditeurs, que Neruda est mort quelques jours après Allende, dans un hôpital? Il est mort d'un cancer, pendant que les escadrons de Pinochet purifiaient Santiago, en pissant dans sa maison et en détruisant ses livres et ses collections. Son dernier poème, il l'a écrit sur le lit d'hôpital, avant sa mort. Sa dernière pensée pour Mathilda, sa femme, sa compagne, sa moitié de vie. On devine dans l'écriture la douce somnolence des agonisants, mais beau jusqu'à son dernier mot. Mathilde, les ans ou les jours, endormis, fiévreux, ici ou là, cloués, la moelle cassée, éveillée peut-être, ou perdue, endormie, chambre d'hôpital, fenêtre étrangère, blouse blanche et discrète, l'engourdissement dans les pieds. Puis ses voyages, et ma mère à nouveau, la tête à mon chevet, tes mains volantes dans la lumière, dans ma lumière, sur ma terre. Ce fut tellement beau de vivre quand tu vivais. Le monde est plus beau, plus terrestre, la nuit quand je dors, énorme dans les creux de tes mains. Et puis, il y a ce texte que nous allons repasser. Vous vous souvenez du titre, Anna?
Oui, alors c'était « Une meurt lentement » de Pablo Neruda.
Alors écoutons-le.
Muere lentamente. Quien no viaja. Quien no lee. Quien no oye música. Quien no encuentra gracia en sí mismo. Il meurt lentement. Celui qui ne voyage pas. Celui qui ne lit pas. Celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement. Celui qui détruit son amour propre, celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins. Celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements, ou qui ne parle jamais à un inconnu. Il meurt lentement. Celui qui évite la passion, et son tourbillon d'émotions, celle qui redonne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement. Celui qui ne change pas de cap lorsqu'il est malheureux, au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'a fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz.
Et nous allons terminer cette émission avec ce petit commentaire. Qui n'a pas griffé dans son enfance, griffonné, écrit un peu ou plus de poésie ? Avec le temps, s'en va cette poésie, et avec elle un regard sur la vie, plus même une vie de la vie. Notre monde, monétarisé, déboussolé, en miettes, compartimenté, tant dans la vie que dans la pensée, est celui de l'hyperprose. Et si le salut était dans la poésie et dans l'interaction de la prose et de la poésie ? Il y a un message politique du poète, dépasser la politique. Le devenir pose problème, il en sera toujours ainsi. Mais le regard de la poésie est irremplaçable. Et si la finalité de la poésie était de nous rappeler qu'il n'y a pas d'existence sans l'état poétique. Nous allons nous quitter, chers auditeurs. Nous nous retrouvons demain soir pour une émission sur les nonagénaires, écrivains et auteurs. Il y aura une femme et un homme de 99 ans, un homme de 93 ans. Est-ce que l'écrit serait un élixir de jouvence ? Nous le saurons demain soir. Bonsoir, chers auditeurs, et à demain pour cette émission sur les nonagénaires.
Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours. Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour d'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre. Le jour se lève et même si ça brûle les yeux, on ouvrira grand nos paupières. Il a fait nuit trop longtemps et avancer sans lumière nous a souvent fait tâtonner. Personne n'a pardonné, si on est là aujourd'hui c'est juste qu'on n'a pas abandonné. On a cherché la lueur de l'aube en sachant qu'elle avait la couleur de l'espoir. On s'est armé de nos stylos pour écrire nous-mêmes la suite de toute cette histoire. Le jour se lève, sort de sa grève, c'est grave à quel point la nuit a été agitée. On en a de belles à raconter, même si j'imagine que ce sera sûrement loin de tes JT. Le soleil éclaire notre papier qu'on avait gratté dans l'ombre pendant toute la nuit. La chaleur fait couler l'encre, nos mots quittent nos cahiers, nos voix sortent de l'ennui. Alors nous allons prendre la parole, monter sur scène pour un moment, j'espère que t'en as conscience. Fini la patience et la méfiance, on s'offre simplement avec l'écriture une renaissance. Le jour se lève et son glaive de lave nous lave des peines et douleurs du passé. Notre avenir est lancé, tu nous écouteras et diras franchement ce que t'en as pensé. Le jour se lève et la joie se livre, la soif se lit sur nos lèvres, tu devrais nous suivre. Si notre heure est brève, nous allons quand même la vivre, nous ne sommes pas bons élèves, mais l'envie nous enivre. Alors à ton tour, ouvre les yeux, approche-toi et observe avec curiosité le souffle et l'enthousiasme d'une brigade de poètes sortis tout droit de l'obscurité. Ne prends pas ça pour de l'arrogance, mais on sent que c'est notre heure et ça fait du bien. Notre passion va nous nourrir et je vais retrouver le sourire dans le regard de tous les miens. Le jour se lève, on le doit peut-être qu'à nous. Et quand je dis ça, c'est pas juste une métaphore. Le jour se lève et si ça se trouve, c'est uniquement parce qu'on l'a espéré assez fort.